Le Noël
des 50 ans Carrefour.
Avec la garantie prix le plus bas sur 200 jouets et jeux vidéo de grandes marques. Comme la bonne paye d'Hasbro à 24,76€ chez Carrefour, alors qu'elle est à 29,20€ chez Leclerc. C'est le
Noël le plus merveilleux.
Carrefour, 50 ans de prix.
Prix en vigueur dans les magasins Carrefour depuis le 19 octobre. Prix moyen constaté du 18 au 22 octobre dans 38 magasins Leclerc. Détail et modalités de la garantie prix le plus bas sur carrefour.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est presque devenu un rendez-vous hebdomadaire. Franck Ferrand reçoit Alain Siroux depuis 3 semaines pour évoquer les grands génies de la science. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alain Siroux est avec nous, vous le connaissez bien entendu, notre consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et alors j'ai un nouveau numéro, je l'ai en primeur là on peut dire Alain, puisqu'il n'est pas encore dans les kiosques, il y sera ce week-end, absolument, le week-end prochain. Alors vous avez fait la une sur la comète de Noël, cette fameuse comète dont on parle, on commence à la voir là.
Il y a du suspense, on commence à la voir au petit matin, à l'heure où blanchit la campagne, comme on dit, mais elle s'approche surtout du soleil, et la question c'est, est-ce que lorsqu'elle va passer derrière, elle survivra?
Alors, on a bien entendu toutes sortes d'articles comme d'habitude sur la vie de l'espace et de toute l'astronomie, et puis un article qui moi m'a, en tant qu'historien, intéressé particulièrement, c'est le recyclage d'un radiotélescope du KGB qui sert maintenant, qui sert aux scientifiques et aux savants.
Hein. Et oui, seule la brute n'évolue pas. C'est-à-dire que les moyens d'écoute des ennemis de l'Union soviétique peuvent être aussi employés à des fins pacifiques, écouter le ciel.
Donc, Ciel et Espace ce nouveau numéro sera dans les kiosques à partir du week-end prochain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immense Newton. Il est l'inventeur de la gravitation universelle.
Et puis cette saison, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Cyrielle, Franck, sur les origines du Beaujolais Nouveau.
Oui, ce Beaujolais Nouveau qui vient animer les rues, les quartiers, les bistrots chaque année le dernier jeudi de novembre. Nous allons bien sûr vous donner quelques éclaircissements sur la question. Pour l'instant, restons sobres. Nous avons rendez-vous avec le redoutable Isaac Newton.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors comme le disait Céline, c'est bien une sorte de feuilleton que je vous propose depuis 3 semaines avec Alain Siroux. Nous avons évoqué les travaux de Kepler et on en avait profité pour parler de Tycho Brahe, de Copernic évidemment. Les travaux de Galilée la semaine dernière qui ont joué un rôle si important pour la connaissance du monde dans lequel nous vivons. Eh bien, on peut dire que les découvertes d'Isaac Newton s'inscrivent dans le droit fil de tout cela. On est dans une sorte, alors bien sûr c'est toujours facile après coup de reconstruire une logique aux choses et d'établir une sorte de généalogie de la science et de la pensée, mais on est bien dans une découverte progressive du monde physique. Alors, on connaît à propos de Newton, évidemment, la légende de la pomme, mais si j'ose dire, c'est un peu la pomme qui cache le verger, car évidemment, Newton ne peut pas se réduire à cette anecdote, dont on verra d'ailleurs d'où elle vient dans un tout petit instant. Le monsieur auquel nous avons affaire aujourd'hui est un des esprits les plus puissants des temps modernes. Je ne sais pas si Isaac était un homme pressé, le fait est qu'il est né avant terme, un peu comme ça, à la bousculade, si je puis dire. Il est né le jour de Noël, figurez-vous, le 25 décembre 1642. Ça n'est pas neutre, cette année 1642, car c'est l'année de la mort de Galilée. Donc quand je parle d'une filiation et d'une suite, vous voyez qu'on avait vu déjà que Galilée commençait à travailler au moment de la mort de Copernic. Là maintenant, notre Newton naît l'année même de la mort de Galilée. Il naît dans le manoir de Woodthorpe, on est au sud de Grantham. Grantham, c'est, vous savez, c'est toute cette région est de l'Angleterre, ce qu'on appelle le Montpellier de l'Angleterre, parce qu'il y fait généralement relativement beau, enfin tout est très relatif hein, là-bas. Mais quand même, il y a, disons, un microclimat. Puis c'est cette Angleterre, moi, que j'adore, tellement terrienne, en quelque sorte, qui semble comme ça surgit de la nuit des temps. Et du reste, la résidence dans laquelle naît Newton a appartenu au fils du roi Harold. Alors ça nous ramène au temps de la conquête. conquête de l'Angleterre, hein, au temps de Guillaume le Conquérant. Ce manoir appartenait à Ulfus. C'est vous dire un peu le genre de maison dont on parle, hein. Imaginez une espèce de bâtisse médiévale, comme ça, avec des grands murs, avec des créneaux. Enfin bon, évidemment, quelque chose d'un peu austère, de très austère même. Alors, il se trouve qu'Isaac Newton naît orphelin de père, puisque son père, John Newton, qui était un cultivateur tout est relatif, on dirait plutôt un gentleman farmer, ce serait beaucoup plus juste, hein. Ce père John Newton meurt 3 mois avant la naissance de son fils, ce qui fait que la pauvre Anne Ayscough, c'est son nom, la mère d'Isaac, lorsqu'elle met au monde cet enfant, qui va devenir un des génies de l'humanité, mais ça elle n'en sait rien encore, évidemment, elle est complètement, paniquée. En tout cas, elle est anxieuse. Elle est veuve depuis 3 mois et elle se demande si ce petit enfant tout à fait minuscule qu'elle a mis au jour avant terme, encore une fois, qu'elle a mis au monde avant terme, elle se demande s'il va survivre. En vérité, Anne n'est pas faite pour vivre seule. Elle va se marier, comme on le faisait très souvent à l'époque. Vous savez que lorsqu'on regarde les registres de l'époque et qu'on fait notamment de la généalogie, on se rend compte que les gens avaient généralement 1, 2, 3 maris ou la même chose, 1, 2, 3 épouses, parce qu'on mourait assez jeune souvent et donc on se remariait. En l'occurrence, elle se remarie avec un certain Barnabas Smith, qui est un clergyman, et ça l'amène à quitter Woolthorpe. Alors on se dit, elle va emmener son fils? Pas du tout. Son fils, elle le confie à sa propre mère et à son frère James Ayscough, qui va devenir donc le tuteur du petit Isaac. Alors, c'est donc une enfance à la campagne, hein. Vous imaginez cette enfance dans un univers encore, je vous dis, relativement médiéval, avec quand même les enseignements du prêtre local, et le petit Isaac va à l'école du village où la légende veut qu'il ait fait des merveilles. Assez tôt, parce qu'il est une bouche à nourrir néanmoins, on va le confier, on va l'envoyer à la ville d'à côté, hein, à Grantham donc, pour qu'il puisse suivre des cours secondaires quand même. Vous voyez, il y a cette volonté évidemment de l'instruire, on est quand même dans un milieu relativement cossu. Il sera logé chez un apothicaire, Mr. Clark, et alors il faut imaginer le petit Isaac suivant les travaux de l'apothicaire. Il est là dans la boutique, il est là dans la réserve de l'apothicaire, dans son grenier où il découvre toutes sortes de livres, de vieux grimoires qu'il feuillette pendant des heures. Ce serait peut-être un anachronisme de dire qu'Isaac a déjà l'esprit scientifique, mais ce qui est certain, c'est qu'il a un esprit des plus curieux. C'est peut-être ça d'ailleurs le secret de cet homme-là. Alors il va passer aussi des heures avec la belle-fille de Mr. Clark qui s'appelle Miss Torrey dans le grenier. Ils sont deux tout jeunes adolescents qui s'effleurent à peine. Elle le regarde, elle, avec des grands yeux émerveillés. Elle est un petit peu plus jeune que lui, elle a 2 ans de moins que lui. Et pour tout vous dire, Newton adore sa compagnie. Osons le dire, elle sera son seul amour. Hélas, elle fera un mariage de raison pour complaire à sa famille. Mais Newton ne l'oubliera jamais. Et une grande amitié les liera par la suite. Ils correspondront comme ça pendant toute leur vie. Elle lui rendra visite régulièrement. Pendant ce temps, Newton, lui, aura fait de tout autre travail. Il sera parti dans les étoiles, si je puis dire. C'est quelqu'un qui vit dans les idées, qui vit pour sa passion. On peut dire qu'à l'intérieur de son crâne, c'est un véritable feu d'artifice.
Sur Europe 1, un extrait de Water Music interprété par Jordi Savall.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous nous contez cet après-midi la vie d'Isaac Newton, Franck Ferrand.
Oui, c'est Isaac Newton qui, vous l'avez compris, est une sorte de rêveur. En fait, il a une imagination débordante. Je vous ai dit qu'il avait paru excellent à l'école étant tout petit, mais plus il grandit, moins il est bon, en quelque sorte. Il ne sait pas ce qu'on appelle un bon élève, parce que lui, ce qu'il aime, eh bien, c'est la peinture, c'est le dessin. Et d'ailleurs, il va couvrir les murs de sa chambre chez Mr. Clark de dessins. Il aime se battre aussi, hein. C'est un boxeur, si l'on peut dire. dire, assez efficace. C'est aussi, et peut-être surtout, un véritable bricoleur. On le voit réaliser une clepsydre, un cadran solaire, la mesure du temps le passionne. Il fabrique aussi une voiturette, et puis alors un petit moulin qui fonctionne grâce à une souris qui court dans sa roue. Alors la souris fait tourner une meule qui permet de transformer le grain en farine, et la farine en question, ça permet de nourrir la souris, vous voyez, là, il est comme ça. Il fabrique aussi un cerf-volant doté d'une lanterne et d'un réflecteur. Des paysans voisins croient carrément voir un météore quand ils voient cette espèce d'objet, cet ovni, employons l'expression, dans le ciel. Alors, il revient à la ferme de Woolthorpe. Il est rappelé en 1657 auprès de sa mère, qui de nouveau est veuve. La pauvre, elle n'a pas de chance. Donc, elle est revenue au manoir avec ses trois enfants, les trois enfants qu'elle a eus d'un second mariage. Lui, à l'époque, a 16 ans. Il est grand temps qu'il s'occupe de la ferme. Hein. Il est nommé régisseur. Mais alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas doué. Il ne sait pas vendre les produits de la ferme. Il vend tout au-dessous du cours. Il va perdre des bêtes. Il passe son temps, disons-le, à lire. Et que lit-il ? Des ouvrages de mathématiques, de physique, enfin tout ce qu'il a pu emprunter notamment à son cher apothicaire. C'est un homme assez singulier, assez seul, disons-le. Il préfère toujours la solitude à la compagnie. Pour tout vous dire, il n'est jamais seul, Newton. Il vit en compagnie de ses idées. Alors un jour, son oncle le surprend en train de résoudre derrière une haie un problème de géométrie. Ça, c'est très intéressant parce qu'on se dit, c'est quand même assez étrange. Si Newton ne dirige pas les affaires de la ferme et qu'à côté de ça, il passe son temps à résoudre des problèmes, c'est qu'il n'est peut-être pas tellement sur sa voie. Et ça va être toute l'intelligence quand même de sa mère, qui décide du coup de le renvoyer en cours. On est en 1660, il entre au Trinity College de Cambridge. Et là, il va avoir un tuteur extraordinaire, un scientifique qui s'appelle Isaac Barrow. C'est un londonien de 33 ans qui avait été exilé pour ses opinions politiques et surtout pour ses convictions religieuses qui n'étaient pas très orthodoxes. Il était entré dans les ordres. Il a été nommé prof de géométrie au Gresham College de Londres. Et cet homme donc qui a été un peu exilé, on va dire, a une grande influence sur Isaac Newton. Newton, grâce à lui, va découvrir les mathématiciens grecs de l'Antiquité, dont Aristote et Euclide. Il va aussi, et c'est plus important encore, se familiariser avec les savants modernes. Newton, disons-le, vit à une époque charnière. Il va être dans l'époque où on est en train de découvrir la méthode expérimentale, en quelque sorte, avec la classification des sciences. Donc, il se familiarise avec l'optique de Kepler, on en avait parlé, avec la géométrie de Descartes, dont il lit, évidemment, le discours de la méthode, avec l'arithmétique des infinis de Wallis, et puis, grâce à Galilée, il commence à découvrir quelques notions de gravitation. Vous savez que Galilée avait travaillé sur la chute des corps, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Donc Newton travaille à tous ces domaines-là avec une facilité déconcertante. Il intrigue ses professeurs et ses camarades d'études, et finalement, on peut dire que c'est dans un laps de temps extrêmement court qu'il va s'intéresser aux sciences et qu'il va les dominer. Alors, il a un mal fou, Kepler, à communiquer le résultat de ses travaux et tout simplement à parler avec les autres. Je vous ai dit que c'est quelqu'un d'assez renfermé. C'est peut-être tout simplement un esprit trop brillant, trop élaboré pour pouvoir communiquer facilement avec les autres. Il est d'un trop grand calibre, si je puis dire. En janvier 1665, il est reçu bachelier, Bachelor of Arts. On est à l'époque d'une épidémie de peste au sein de l'université, donc il est renvoyé dans ses foyers comme tous ses camarades. Le voilà qui doit donc rejoindre la ferme. Le voilà de nouveau à Woolthorpe jusqu'à l'automne de cette année-là. Alors il s'occupe de son verger. Vous me voyez venir. Il est au calme à ce moment-là. Il profite de cette période pour travailler sur un certain nombre de sujets scientifiques, sur le mouvement, l'optique. Il développe ses modèles mathématiques. Et évidemment, c'est à cette époque que Voltaire, et voilà le coupable, si je puis dire, que Voltaire situe la légende de la pomme. Et très doué Voltaire pour créer comme ça des légendes. En fait, il était historien, mais au sens antique du terme. Il était l'homme qui créait des mythes, en quelque sorte. Et d'après un récit qui est dû à Mrs. Conduit, qui est elle-même la nièce de Newton, Voltaire nous raconte qu'un jour, Newton est assis comme ça dans son verger, on est au clair de lune, et pof, il voit tomber une pomme. Oh, une simple chute. Mais une chute, on ne sait pas pourquoi à ces moments-là. Vous savez, c'est une espèce de déclic en lui. Ça l'amène à réfléchir sur la nature de cette force assez extraordinaire qui va entraîner les corps proches de la Terre vers le centre de la Terre, alors que la Lune, elle, est en orbite. Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas? Pourquoi est-ce qu'alors qu'une pomme tombe de son arbre, la Lune, elle, reste en orbite et ne tombe pas vers la Terre? Là, ça demande réflexion et ça va être peut-être, semble-t-il en tout cas, l'origine de la célèbre loi de la gravitation universelle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous parlez d'Isaac Newton.
Oui, Isaac Newton qui, en regardant tomber une pomme, aurait eu l'intuition des lois de la gravitation. Alors, il estime, Newton, c'est ça, et on va y revenir évidemment en détail avec Alain Siroux, il estime que la force d'attraction gravitationnelle qui agit sur la pomme est exactement la même force que celle qui agit sur la Lune. Simplement, nous dit-il, cette force est affaiblie par la distance et donc elle maintient la Lune en orbite mais sans la faire tomber. Voilà en gros, pour se résumer extrêmement, l'intuition qu'a eu Newton. On verra comment il la raffine par la suite. Deux corps quelconques, dit-il, s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance de leur centre de gravité. Voilà la loi de Newton, bien entendu. Alors, avec muni de ces belles... l'épidémie de peste a passé entre-temps, et finalement, elle a joué un grand rôle, elle a rendu un grand service à l'humanité, cette épidémie. Voilà notre Newton de retour à Cambridge. Alors là, il va rédiger cette fois 5 mémoires, notamment sur le calcul intégral et différentiel, la méthode des fluxions. Il s'agit d'un algorithme qui permet de trouver numériquement une approximation précise d'un zéro, d'une fonction réelle ou d'une variable réelle. On va peut-être pas entrer dans... Moi, ça me rappelle les cours de terminale C, ça me fait presque peur. On va pas rentrer dans ces considérations mathématiques. En 1666, c'est l'année du grand incendie de Londres, vous savez, Newton commence à vérifier par le calcul la gravitation, donc c'est là qu'il va créer cette équation qui porte le nom de loi en carré inverse. Évidemment, il est convaincu de ce qu'il a découvert, mais comme c'est un homme très renfrogné et qu'il est quand même d'une grande prudence, il évite de trop claironner sa découverte dans un premier temps. Il attend d'en savoir davantage. En 1669, il va quand même remplacer Barrow, qui désirait se consacrer à la théologie. Il n'a que 27 ans, donc vous voyez que là, il devient le maître. Et on peut dire que très vite, le maître va dépasser l'élève. Alors qu'enseigne-t-il? Eh bien, il enseigne essentiellement l'optique. Déjà, à cette époque, il est connu par ses élèves pour avoir construit de ses propres mains un télescope à réflexion, un télescope qui va porter son nom, le télescope Newton. Il permet de voir cet instrument distinctement le disque de Jupiter et ses satellites, ainsi que le croissant de Vénus. C'est ce que nous dit Avram Haley dans son Newton, mathématicien, physicien et astronome. Et grâce à cet engin, on observe aussi l'anneau de Saturne. À ce moment-là, enfin quand je dis à ce moment-là, le 11 janvier 1671, il est élu membre de la Société Royale de Londres, de la Royal Society, sur proposition de Seth Ward, qui est évêque de Salisbury. À 29 ans, ces trois grandes découvertes, la méthode des fluxions, la théorie de la gravitation universelle et la décomposition de la lumière, dont je ne vous ai pas encore parlé, sont déjà claires dans son esprit. Il est tout jeune, il a moins de 30 ans, mais ça c'est presque une loi universelle, là pour le coup, qu'on pourrait appeler, la loi Ferrand-Siroux. C'est que toutes les très grandes découvertes de ce genre se font toujours jeunes. C'est-à-dire que tous ces grands savants qui mettent parfois des années, des décennies à raffiner, peaufiner et mettre sur pied les théories dont ils ont eu l'intuition, en ont eu néanmoins l'intuition alors qu'ils sont jeunes. C'est très important ça, et c'est très important notamment pour ce qui est de la politique de l'éducation, etc. C'est-à-dire que, en fait, il faut donner aux chercheurs les moyens d'avoir leur centre de recherche, leur département, le plus tôt possible, parce que c'est là, dans ce bouillonnement encore juvénile, que se font les grandes découvertes. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, notre Newton est maintenant en mesure, il a le poids nécessaire pour faire part à ses étudiants de ses découvertes sur la lumière. À cette époque-là, la lumière blanche est considérée comme parfaitement uniforme, parfaitement homogène. Eh bien, grâce à l'observation de la lumière du soleil à travers un prisme, Newton observe que le rayon du soleil se transforme en fait en une bande de lumière
colorer ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre, hein, tout simplement. Et il explique à ses étudiants qu'il y a une lumière blanche composée de rayons colorés qui se réfractent différemment. Ça, c'est pas une petite découverte de l'optique, vous avouerez. Et évidemment, dès 1672, Newton va publier sur le sujet un mémoire qui, évidemment, va faire du bruit, puisque la Société Royale, la Royal Society, très impressionnée par ce compte-rendu, le publie et va faire, du même coup, la notoriété de Newton. Alors, évidemment, dès que vous, ça c'est le problème, dès que vous sortez du rang et que vous êtes visible aux yeux de vos contemporains, c'est le début des querelles. Querelles notamment, en l'occurrence, avec Hooke, avec Huygens. Les scientifiques européens contredisent les idées de Newton, et alors ça va être l'objet de véritables disputes scientifiques entre eux. Ça y est, on pensait que la carrière de Newton était un chemin semé de roses ou de pommes au choix. Eh bien, évidemment, on est obligé de constater une fois de plus que celui-ci, comme les autres, va devoir faire, j'allais dire avec la sottise de ses contemporains, en tout cas avec la force de leur résistance. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Franck Ferrand.
Personnage fascinant que Newton, qui a donc ses intuitions extraordinaires, mais dès qu'il devient un peu connu, évidemment, ça commence à coincer. On s'oppose à lui, pas seulement en Angleterre, hein, d'ailleurs, dans toute l'Europe.
Parce qu'il se révèle. Parce qu'il est une catastrophe. Humainement, Newton est une catastrophe. Son dernier biographe, qui dans les années 70 a consacré 1200 pages à la vie de Newton, a avoué à la fin de ses 10 ans de travail qu'il n'avait jamais imaginé qu'il vivrait avec un personnage aussi épouvantable que Newton, qui, au bout du compte, se révèle... alors, aujourd'hui, on dirait bipolaire, misanthrope... en fait, il est fondamentalement... différent des autres. Quand il est jeune, il a une haine, une hargne envers, je dirais, sa famille, l'humanité de façon globale. Il a été abandonné par sa mère. Il l'a jamais supporté. Quand sa mère est partie vivre avec un autre homme, qu'elle l'a laissé, il l'a menacé de brûler la ferme où elle était installée. Il fulmine avec ses compagnons, ses camarades. Il est méchant, il est rusé, il prépare des coups. Il
un
est
peu vicieux, on va dire.
Extrêmement, extrêmement. Et en même temps, je dirais, il a de l'or dans les mains et dans la tête. Mais humainement, c'est une catastrophe.
Pour ceux qui doutaient que nous allions aujourd'hui vous proposer une vision un petit peu problématique de Newton, eh bien, vous en avez eu la démonstration, comme dirait Alain Sirou lui-même, c'est QFD.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi d'Isaac Newton. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et nous avons des réactions d'auditeurs.
Oui, alors nous avons un message là sur Twitter qui nous informe qu'il y a à Cambridge un pommier issu de celui de Newton devant le Trinity College. Ça, ce sont les Anglais. Vous savez, ils ont ce sens absolument inouï que nous ferions peut-être bien d'avoir, nous, parfois un peu plus. Igor, par ailleurs, de façon nettement plus anecdotique, nous signale via Facebook qu'il a donné le nom de Newton à son magnifique berger australien. Eh bien, écoutez, nous en sommes ravis.
Hein. Le mien s'appelle Newton aussi.
Ben voilà. Ah, ben, vous voyez, oui, ça vous fait un point commun avec Igor, avec notre auditeur. Alors, on entendait pendant cette interruption la publicité sur l'ouvrage de Catherine Pedotti à propos de Jésus. Et vous me disiez, Alain Sirou, que Jésus faisait partie, dites-vous, des têtes de Turc de Newton.
Oui, parce que Newton, c'est vraiment un intégriste religieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui considère que Dieu, d'ailleurs, qu'il appelle Pantocrator, c'est-à-dire le Tout-Puissant, est celui qui règle la vie de l'univers. Et le Dieu, pour Newton, sa principale caractéristique, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est pas l'amour, c'est pas aimez-vous les uns les autres. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui est omniscient, omnipotent. Et Jésus-Christ, pour lui, c'est un escroc. C'est-à-dire que il fustige ceux qui pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que d'abord, Dieu, il n'a pas besoin d'avoir un fils pour s'exprimer. Ensuite, qui sont ces gens qui se recueillent devant des reliques, qui ont des attitudes, mais vraiment d'adorateurs de fétichisme, etc. Et il a ouvert un petit carnet, parce que c'est un homme de carnet, Newton. Et il est extrêmement construit. Ce sont des carnets dans lesquels il fait des chapitres. Alors, s'il prend par exemple le carnet... de Jésus-Christ, vous allez avoir 30 chapitres avec ce qu'il a lu, des extraits de sa biographie, enfin de son enquête, ses réflexions, ses attaques, etc. Et tout est extrêmement construit et il va, conserver ses carnets comme à chaque fois un morceau de sa mémoire, et c'est ce qu'on va retrouver plus tard et qui nous permettra de raconter Newton.
Alors justement, ces carnets dont vous parlez, il y en avait un certain nombre dans une fameuse malle qui a été mise aux enchères en Angleterre, à Londres, chez Sotheby's, en 1936, qui a révélé bien des choses.
Oui, c'est un descendant des argentés de Newton qui, deux siècles plus tard, va mettre en vente une malle avec du papier dedans chez Sotheby's. Et cette malle est achetée par le fameux économiste John Keynes.
Keynes, oui, le père du keynésianisme.
Et on va découvrir...
L'intervention de l'État dans l'économie.
Et on va découvrir que cette malle contient toutes les traces, toutes les preuves de la seule véritable, passion en dehors de la science de Newton pour quelque chose d'extérieur. Ça s'appelle l'alchimie. Et l'alchimie, vous savez que, selon cette doctrine, l'univers est rempli par une sorte de d'effluve vital, un esprit divin qui est présent en toutes choses.
Ouais, mais c'est inattendu, ça.
C'est tout à fait inattendu. Et d'ailleurs, on trouve des papiers dans lesquels Newton écrit. C'est vraiment ce qu'il écrit. Je suis le dernier des magiciens, le dernier des babyloniens et des sumériens, le dernier grand esprit à avoir regardé le monde visible et intellectuel avec les mêmes yeux que ceux qui avaient commencé il y a un peu moins de 1000 ans à constituer notre patrimoine intellectuel. Et donc, il va se livrer dans son laboratoire à ce qu'on appelle des études alchimiques.
Alchimique, oui, c'est ça. En et dans plein 17e siècle.
Exactement. Et l'alchimie, pour l'alchimie, bien, l'esprit de Dieu, l'esprit vital, celui qui lie toutes les choses, les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, etc., réside dans des métaux. Et si vous réussissez à soustraire cet esprit au métal, à le mettre sur un support, alors vous créez la pierre philosophale, laquelle vous donne une vie éternelle, laquelle vous permet d'être jeune, en bonne santé, de transformer le plomb en l'or. Et Newton va consacrer des dizaines d'années à travailler pour essayer d'extraire cela. Et les alchimistes ont aussi un langage de secret. On ne nomme pas les choses comme elles sont. On dit pas une pierre, on utilise une autre formule, on ne donne pas le métal. On parle de mercure, de Jupiter, de couleurs, etc. Et donc, ce langage alchimique, doublé d'une obligation pour Newton de cacher, de masquer les choses, de ne rien dire, et cette espèce de vision qui est que derrière toute chose, il y a l'Esprit de Dieu et qu'il baigne de façon fluidique tout l'univers, est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire pour celui qu'on considère aujourd'hui comme la référence, le premier grand scientifique mathématique sur lequel repose la science actuelle.
Ah, c'est pour le moins inattendu. Donc vous nous brossez de Newton un portrait, on va dire, assez différent. Un personnage antipathique, carrément, on peut dire carrément misanthrope,
oui.
Qui vit en marge, qui est même assez vicieux, nous dites-vous,
oui.
Colérique, difficile, difficultueux, si je puis dire, un personnage aux limites parfois de l'hérésie dans ses points de vue sur la religion et sur le monde, à travers ne serait-ce que l'alchimie, comme vous le dites, et puis un esprit beaucoup moins, beaucoup moins fermé qu'on aurait pu l'imaginer, et beaucoup moins crispé sur la science physique pure.
Sur physique, sur le comportement, vous l'auriez croisé, vous l'auriez fui. C'est quelqu'un qui fréquente personne, qui est distrait, qui est habillé, mais comme un épouvantail, qui n'a rien à dire, qui n'a strictement rien à dire. On le décrit se promenant dans Cambridge en poussant des petits cris, en sautant, en dessinant sur le gravier des figures, à la cantine, ou en tout cas là où il déjeunait, restant le regard flou, figé devant un plat pendant une demi-heure, une heure, totalement bloqué. Et puis quelqu'un qui ne sort pas, qui n'a aucune distraction, pas de cheval, pas de promenade, il est insensible à l'art. Une seule fois il va écouter de l'opéra, il s'enfuit au deuxième acte, en trouvant que c'est absolument épouvantable. Il lit pas de roman, pas de poésie, et il a pas d'humour, pas d'ironie.
Eh bien, dites donc, quel portrait!
Quelqu'un l'a vu rire une fois en 5 ans.
Vous êtes en train de parler du personnage préféré des Britanniques, hein, je suis en train de vous signer.
Mais c'est son biographe qui raconte ça.
Ouais.
Dernier biographe.
Ouais.
Quelqu'un l'a vu rire en 5 ans. Et vous savez de quoi il a ri? Eh bien, il avait prêté à un collègue un livre de géométrie. Et le collègue lui dit, mais à quoi ça sert exactement? C'est la seule fois où on a vu Newton rire.
Ah oui, donc c'est un rire sarcastique en plus. C'est assez terrible. un personnage assez diabolique finalement. Et alors vous nous dites que la légende propagée par Voltaire, la légende de la pomme, alors là on est dans l'imagination pure. Hein, il n'a jamais vu de pomme tomber.
Peut-être, mais vous savez, le problème de la découverte scientifique, c'est que c'est quelque chose qui, je dirais, se mûrit.
Et voilà.
Et peut-être que la pomme y a contribué, mais vraisemblablement, je dirais que Newton lui-même a essayé de faire croire à une année miraculeuse, qui est celle pendant laquelle il se trouvait donc dans sa famille au moment de
la
peste.
Pendant cette fameuse épidémie, voilà.
Il a laissé dans le passé, plus tard, il a laissé croire que finalement la grâce divine lui était tombée sur la tête. C'est évidemment beaucoup plus complexe que cela parce qu'il va tâtonner et on va le découvrir à travers ses petits carnets. C'est quelqu'un qui a une curiosité absolument indéniable pour tous les domaines de la nature. Et donc, en ouvrant des carnets, il ouvre des domaines de recherche. Et c'est un monomaniaque, donc quand il se penche sur quelque chose, il tombe dedans, il est aspiré. Et donc vraisemblablement, la quête de l'universalité, de la gravitation, va l'entraîner sans doute au moins pendant 10 ans à des tâtonnements et à essayer de formuler les choses. On a une assez bonne idée aujourd'hui de ce qui s'est passé quand l'astronome Edmond Halley, donc qui est un jeune astronome à ce moment-là, 28 ans, vient le voir. Il est enfermé à Cambridge, ça fait 5 ans qu'il ne parle plus à personne. Il déteste les collègues qui, évidemment, discutent toujours de est-ce que Newton a raison ou pas, il supporte pas ça. Et Halley vient le voir en disant: excusez-moi, monsieur Newton, mais je voulais vous demander quelque chose. Quelle serait la trajectoire des planètes si la gravitation diminuait en fonction inverse du carré de la distance? Et là, Newton reçoit comme une gifle. Il ne pensait pas qu'on allait directement lui demander cela. C'est au cœur de son étude. Et il répond tout de suite: une ellipse. Et donc, il a
déjà mûri tout ça, mais oui.
Mûri et donner la réponse de ce qui allait devenir l'universalité d'une loi fondamentale de la physique et donc du monde.
Eh oui, cette loi de la gravitation qui nous régit tous, en tout cas à une échelle macro. Alors, nous allons revenir sur les grandes inventions de Newton et voir en quoi la science a été transformée par cet homme-là.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait du Messie interprété par les chœurs de la chapelle Schola Cantorium. Vous nous parlez, Franck Ferrand, d'Isaac Newton avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Isaac Newton, habillé pour l'hiver par Alain Sirou. Vous nous présentez un personnage assez peu sympathique. Il faut dire aussi peut-être, je ne dis pas que c'est l'explication, mais ça pourrait contribuer, qu'on ne lui connaît aucune forme de liaison, ni avec des femmes, ni avec des hommes d'ailleurs. Hein, il est asexué cet homme-là?
Il est morpuceau, c'est évident.
Ah oui,
il n'a strictement, voilà. strictement aucun lien. Il a eu des amis, mais il s'en est séparé, il s'en méfie. Il regarde tout le monde avec un drôle d'air, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, mais c'est vrai que sur le plan personnel, c'est catastrophique.
Alors, sur le plan scientifique, on peut dire qu'il s'est attaqué à bien des grands mystères de la physique, hein, quand même.
Oui.
Alors, je parlais de l'optique tout à l'heure. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Ça a été ses premières amours, si je puis dire.
En ce sens-là, il est un continuateur de Galilée. C'est-à-dire, c'est la lumière qui l'intéresse. Et capter la lumière. Donc, ça, c'est l'invention du télescope. Il s'est inspiré, évidemment, de procédés optiques existants, mais il a fabriqué lui-même un miroir de télescope. Et quand on sait que c'est quelque chose qu'on doit polir, qui ressemble à une sorte de filet à papillon qui consiste à attraper les photons qui viennent des étoiles, les concentrer sur un point pour ensuite mettre un oculaire, c'est-à-dire une loupe, et grossir ce qui vient du ciel, c'est pas une mince affaire. Son petit télescope fait vraiment une révolution, parce que la lunette de Galilée, ce sont des optiques, et ces optiques, elles ont un problème de chromatisme, elles déforment et elles font une tache lumineuse. Donc c'est un très grand bond dans la technologie scientifique que l'invention du télescope. Ça, c'est vraiment une chose.
Et avant lui, il n'y a pas de télescope.
Non, avant lui, il n'y a pas de télescope. Ah oui. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ensuite, c'est évidemment la lumière. Vous avez décrit les questions qui se posent sur l'optique. En faisant passer le rayon soleil dans un prisme, il décompose cette lumière. C'est un peu comme quand vous êtes dans le jardin l'été et que avec un jet d'eau, vous créez un arc-en-ciel. Eh bien, il va fabriquer des arc-en-ciel. Il va étudier cet arc-en-ciel et découvrir qu'à l'intérieur, il y a des signatures. C'est-à-dire que la lumière parle. Elle a une identité, elle a une empreinte digitale. C'est absolument considérable comme avancée. Et puis, il va s'intéresser beaucoup aux mathématiques. On peut parler de la méthode des flexions, par exemple, qui permet de calculer la longueur d'une courbe.
Alors là, on est dans les mathématiques pures.
Dans les mathématiques pures et pratiques.
Oui, parce que c'est utile ensuite lorsqu'on parle d'ellipse, par exemple, entre autres.
Exactement. Voilà. Et puis, vous avez effectivement la théorie mathématique du calcul différentiel. Quelque part, il est, on se demande d'où ça sort, quoi. C'est tout à fait extraordinaire.
Mais alors, c'est un personnage, on a vu, difficile, et qui alors est tellement convaincu de la supériorité de son esprit et de la justesse des conclusions auxquelles il est arrivé, qu'il ne tolère pas qu'on remette son esprit en cause. Quand il a parlé, personne ne doit émettre de doute ou de réserve, en vérité.
C'est pour ça que, je dirais, celui qui va prendre la direction, de son fameux ennemi, encore une de ses têtes de turc, Hook, qui prend,
Hook, c'est vraiment l'ennemi.
C'est l'ennemi parce que il se permet de critiquer la théorie corpusculaire de la lumière de Newton. Il est à l'Académie, l'équivalent de l'Académie des sciences, donc la Société royale. Et dès qu'il est critiqué, Newton claque la porte, sans mur, sans ferme. N'oubliez pas que même ses domestiques, lorsqu'il lui apportait à manger, le faisaient à travers un petit trou,
un guichet
pour ne pas le déranger. Il avait juste un peu d'amitié pour ses deux chats. Il a fait deux petites chatières pour que les deux soient indépendants et puissent lui arriver. Mais
il faut l'imaginer avec la perruque de travers, toujours plus ou moins mal vêtue. Enfin,
il est perdu dans ses pensées.
Oui,
et c'est vrai que à ce moment-là, il s'intéresse d'abord et majoritairement à la question de l'universalité. Et je pense que ce qui est important dans la gravitation universelle, justement, vous avez donné la réponse, mais cette question de savoir si finalement la pomme, on va dire un objet, comme dirait Galilée, en déplacement, est la Lune, c'est-à-dire les planètes, mais aussi les étoiles, mais aussi tout l'univers, est en lien. Et ce que va faire, et la grande révolution de Newton, c'est ça, c'est que finalement il va réconcilier le ciel et la terre. Il va montrer que l'univers forme un tout et que la même loi s'applique pour la pomme, mais aussi pour la lune, mais aussi pour les planètes, mais aussi pour les étoiles.
C'est une loi universelle.
Une loi universelle. Et quand on lui demande, oui, mais il n'y a pas de fil, comment ça peut marcher, on ne cherche pas à interpréter comment ça marche, on simplement regarder l'œuvre de Dieu. Regardez simplement comment la nature, comment il a mis en place ce plan. Et vous comme moi, mais aussi la Lune, les étoiles, faisons partie d'une même histoire. Et c'est en ce sens-là où on peut se référer à Copernic, à Kepler, à Galilée. Le beau, le pur n'est pas au ciel, l'impur, le souillé n'est pas sur la terre, c'est la même histoire, c'est le même lien, et là on se retrouve très proche des visions alchimiques.
Et c'est là qu'on passe quand même du 16e au 17e siècle, si je puis dire, c'est-à-dire que ce que nous voyons avec Galilée la semaine dernière, c'était une observation formelle des mouvements. Avec Newton, on entre dans le domaine des forces.
Absolument.
C'est l'intimité même de l'objet qui est atteinte.
Et vous allez comprendre très simplement si je vous dis que Galilée a montré qu'un corps qu'on lançait devant soi horizontalement tombe de 5 mètres pendant sa première seconde de chute, et Newton dit d'accord, mais s'il est propulsé assez loin et assez vite à cause de la sphéricité de la Terre, pour que le sol se dérobe de l'équivalent de 5 mètres sous les pieds, alors cet objet, malgré sa chute, restera à la même altitude au moment du lancer. Et c'est quoi? C'est le satellite. C'est la Lune. Ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil et qui sont retenues par cette force et qui obéit à la même loi, la loi universelle de la gravité.
Alors, il vieillit mal, dites-vous, ce Newton. Plus le temps passe et plus il devient terrible. Il va finir par quitter Cambridge. Oui. Tout de même, c'est devenu une personnalité très célèbre à ce moment-là.
Extrêmement
célèbre. Devenu le sujet principal du roi d'Angleterre, le plus célèbre, le plus important. Il est le génie de l'époque. Tout le monde en a conscience. on n'a pas découvert le génie de Newton après sa mort, loin de là. Et alors il devient directeur de la monnaie de Londres, c'est-à-dire on lui confie un poste extraordinairement honorifique. Mais lui va aller plus loin, il ne se contente pas des honneurs.
Encore une fois, Newton tel qu'en lui-même, c'est-à-dire il rationalise les choses. Et c'est un esprit scientifique, il rationalise la production des pièces, il réorganise l'administration, ne supporte aucune critique. Et il s'acharne contre les faux monnayeurs. Ça qui est extraordinaire.
C'est qu'il se trouve un nouvel ennemi, là.
Il va embaucher des espions. Il va se déguiser. Il va hanter les tavernes pour récolter des informations sur la fausse monnaie. Et puis il va attraper, des dizaines de malheureux dans sa toile, dans son fil, et il va les envoyer à l'échafaud.
À la pendaison, à l'époque.
Ils seront pendus. Oui. Et pour Newton, il y a pas de compassion, il y a pas de pardon. Il y a juste l'application de la loi. Pantocrator, c'est le dieu qui ne discute pas, qui n'est pas un dieu d'amour, qui est un dieu de force et de raison.
Et peut-être que finalement le point commun à tout ce que vous nous avez dit de Newton à l'Institut depuis le début de cette émission, c'est qu'on ne trouve pas d'amour dans tout ça. Où l'amour s'est-il réfugié chez cet homme? Dans la pure pensée?
Ah, c'est difficile. Je lisais un magazine la semaine dernière sur les bipolaires. Oui. Et dans ce magazine très contemporain,
hebdomadaire, je vois à quoi vous faites allusion.
On citait Newton comme un célèbre bipolaire. Alors, on pourrait aller dans le cerveau de Newton aujourd'hui, c'est sans doute extrêmement complexe. Il faut retenir, j'imagine, les résultats, ce qu'il a apporté à la connaissance. Quant à l'homme, il restera sans doute un mystère, mais ça montre que les voies sont extrêmement complexe et on aura la même analyse par rapport à Einstein. Ce n'est pas en découpant le cerveau d'Einstein.
Il a des bons côtés, il est collectionneur, il collectionne les bustes.
Oui.
À son effigie.
À son effigie.
Il collectionne les tableaux et les bustes qui le représentent. C'est quand même assez extravagant.
Et malheureusement, il termine mal. Et il vieillit mal.
Finalement, il s'aime bien lui-même, on peut dire ça.
Il s'aime bien. Peut-être le fait de ne pas avoir été suffisamment aimé a une conséquence importante. Mais en tout cas, elle a fait ce grand homme à qui la science aujourd'hui doit énormément.
Alors évidemment, il meurt à 85 ans et l'on sait qu'il va avoir droit à des funérailles royales. Oui. S'il vous plaît, c'est pas tout à fait des obsèques nationales, mais c'est leur ancêtre en quelque sorte. Il est enterré dans le cœur de Westminster, c'est où on peut le voir encore aujourd'hui d'ailleurs.
Tout à fait.
On peut voir son tombeau en tout cas.
Et il restera, dans la mémoire collective. N'oubliez pas qu'il a été dessiné par Gottlieb. Moi, la première fois que je l'ai découvert,
mais c'est vrai,
en tant qu'enfant,
bien sûr.
Gottlieb avec la pomme
avec la perruque
qui lui tombe
et
sur la tête.
La pomme, oui, voilà.
Voilà, donc ça restera une image, mais derrière cette image, il y a toute la complexité de l'humanité.
C'est intéressant de voir qu'un auteur populaire comme Dan Brown dans Da Vinci Code fait finalement de lui une sorte de symbole diabolique. Hein. Oui. Donc il y a bien quelque chose là de... On parlait d'hérésie tout à l'heure. Il y a quelque chose comme la splendeur intellectuelle du diable chez ce personnage. On peut dire que là, nous marquons en quelque sorte le point d'orgue de notre série, Alain, puisque donc nous sommes partis de Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, Newton. Avec ces cinq-là, c'est toute la connaissance physique du monde qui
un échafaudage de géants.
Ils se sont appuyés
les uns sur les autres. On a démarré avec une vision qui n'était pas argumentée. Puis ensuite, on est passé à un personnage tout à fait extraordinaire, Kepler, avec un Galilée très pragmatique et le Newton qui va boucler l'ensemble et qui va donner une cohérence à ce monde sur lequel nous nous appuyons toujours aujourd'hui.
Merci infiniment Alain Sirou. C'est toujours passionnant de vous écouter. Et je recommande à nos auditeurs, à partir de ce week-end, le nouveau numéro de votre revue Ciel et Espace.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous nous répondez à la question de Cyrielle sur la page Facebook de l'émission, Franck, qui souhaite avoir plus d'informations sur l'origine du Beaujolais nouveau.
Oui, c'est tout à fait de saison. C'est demain, si je ne m'abuse. Alors, vous connaissez bien sûr cette merveilleuse région que j'adore en ce qui me concerne, du Beaujolais. On est au nord-ouest de Lyon, dans les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire. La vigne là-bas est plutôt récente, 17e et surtout même 18e siècle. On cultive essentiellement un cépage qui s'appelle le Gamay noir. Le Beaujolais nouveau, c'est 99% de Gamay noir, donc c'est assez facile, presque un monocépage. Et ça convient très bien, ce cépage-là, à ce qu'on appelle les vins primeurs, c'est-à-dire des vins qui ont moins de 2 mois de macération et qui sont mis en vente extrêmement vite, très rapidement après la récolte. Alors dans le Beaujolais, il s'agissait d'obtenir des vins qui soient prêts à la consommation le plus rapidement possible. Il faut vous dire que tout démarre, en quelque sorte, avec un arrêté du 8 septembre 1951 qui stipule que la date de sortie de vin peut être avancée si le vignoble dispose d'une AOC, d'une appellation d'origine contrôlée. C'est l'Union viticole Beaujolaise qui à ce moment-là demande à pouvoir vendre ses vins en primeur. Première date fixée par décret, le 15 décembre 51, et puis ensuite ça changera, ça avancera un peu. Et finalement, en 1985, on décide que le Beaujolais est vendable dès le troisième jeudi du mois de novembre. C'est donc en l'occurrence demain. Alors, ça a pris une extension phénoménale. On est passé de 100 000 hectolitres en 1970, à 1 400 000 hectolitres au tournant des années 2000, grâce surtout à deux hommes. L'écrivain Jean Orizet, qui va lancer le slogan « Le Beaujolais nouveau est arrivé », et puis Georges Dubœuf, le vigneron ami des grands chefs, vous savez, et qu'on a surnommé le roi du Beaujolais. Ce sont eux qui, à partir de 1975 essentiellement, ont su donner au Beaujolais toute l'importance et toute la célébrité que l'on connaît. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors Franck, je vais essayer de vous faire deviner de quoi nous allons parler aujourd'hui avec les experts européens. Si je vous dis Einstein, Montaigne, Bill Clinton, Brad Pitt, Marguerite Yourcenar, David Bowie, Francis Lalanne, Rick Azaray, Carl Lewis, quel est leur point commun ?
Francis Lalanne, Rick Azaray, ils sont végétariens.
Et ils sont tous végétariens. 10 sur 10 élèves Franck. Allez, on en parle avec les experts européens. Vous avez des questions, 3921 ou europe1.fr.
Merci beaucoup Elena et à demain Céline.
À demain Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.